Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
C'est la rentrée et on est toujours au taquet. Vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h05 et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, pour commencer à l'international, on parlera de ce qui se passe en Biélorussie avant de parler de la Californie.
Et ensuite, on passera au national avec la rentrée des Gilets jaunes. On parlera ensuite d'une mobilisation en soutien à un inspecteur du travail. On parlera ensuite de condamnation pour outrage à Nice, de l'ensauvagement de la société, des nouvelles tendances politiques des mairies écolo. Et puis, pour finir la rubrique nationale, pardon, des distributions alimentaires qui sont interdites à Calais.
Et après une petite pause musicale, on enchaînera sur la tentative de mobilisation au local à Lyon des fachos et un sujet sur la grève des salariés chargés du nettoyage des TGV.
Et on inaugure cette émission par quelques brèves et cette rentrée aussi quand même. Donc on commence à l'international. Alors depuis début septembre à Mexico, des femmes ont décidé d'occuper la Commission nationale des droits de l'homme qui est censée suivre les cas de disparition et de féminicide au Mexique. Elles ont rebaptisé ce nouveau lieu désormais réquisitionné la Casa de Refugio Ni Una Menos. En France, le chef de la compagnie de CRS qui a été responsable de la mort de Zineb Redouane le 2 décembre 2018 à Marseille a été promu. Alors Bruno Félix, hein, c'est son petit nom. Il a notamment refusé de donner l'identité du tireur à l'IGPN et de fournir les armes de son unité aux enquêteurs. Et bien malgré cette insoumission, il est promu à la tête de la compagnie de CRS 46, je vous le donne en mille, qui est une compagnie lyonnaise. L'impunité policière a encore une longue vie devant elle. À propos de meurtre policier toujours, le principal policier impliqué dans l'interpellation qui a causé la mort de Cédric Chauvia le 3 janvier 2020 avait déjà fait l'objet d'une plainte pour des violences commises en 2018. Bien sûr, il n'avait été ni suspendu ni condamné. Dans la rubrique collusion entre monde politique et financier, Bernard Arnault, qui devait racheter le joaillier américain Tiffany, le jugeant désormais trop cher, a obtenu du ministre Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères, de lui signer une petite lettre lui permettant d'esquiver tranquillement sa promesse d'achat. Et pour terminer, on va parler pour la première fois de Éric Dupond-Moretti, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler parce que c'est la rentrée. Non, mais je sais pas.
Non, mais ça valait le coup.
Je pense qu'on va beaucoup en parler cette année. Et donc, il a passé une partie de ses vacances avec l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, qui sera jugé en novembre prochain pour corruption dans l'affaire Bismuth-Sarkozy. Et c'est donc le parquet national financier qui porte l'accusation sous l'autorité du garde des Sceaux. Voilà, donc le même Éric Dupond-Moretti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On passe tout de suite à l'actualité internationale.
Est-ce qu'on écoute une petite chanson avant ?
Mais bien sûr, justement, en l'honneur des féministes qui ont occupé la Commission nationale des droits de l'homme au Mexique, on écoute une petite chanson hommage qui s'appelle Vivir sin miedo. Vivir sin miedo.
Yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Inni, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous venez d'écouter Conscience Sin Miedo. On passe tout de suite à l'actualité internationale avec un sujet sur la Biélorussie.
Alors, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant en Biélorussie ? Des dizaines de milliers de manifestants ont manifesté ce week-end pour le sixième week-end consécutif contre Loukachenko à Minsk. Au pouvoir depuis 1994, Loukachenko a été élu pour la 6e fois président le 9 août dernier, mais cette fois-ci, non sans heurts, puisque la contestation de cette réélection a provoqué 3 nuits d'émeutes et de gigantesques manifestations qui ne désemplissent pas. Mais alors que révèle cette contestation de la société biélorusse et quelle implication accompagne ce mouvement tant au niveau régional qu'international? Depuis 26 ans, les élections présidentielles sont devenues un rituel, une façade qui vient confirmer l'autoritarisme du régime en place. Pour s'assurer des bons résultats des élections, Loukachenko applique toujours la même recette: éviction des concurrents, contrôle des médias, falsification des résultats et recours à l'intimidation, voire si nécessaire à l'emprisonnement. Pourtant, cela n'a pas empêché cette fois-ci une mobilisation massive, autrement plus importante qu'en 2010. 3 nuits d'affrontements contre les aumônes, les unités anti-émeutes et des manifs géantes à Minsk, mais aussi ailleurs, qui agitent tout le pays. Contrairement au soulèvement de Maïdan à Kiev en 2014, donc en Ukraine, il s'agit ici d'un mouvement qui n'est pas un mouvement d'occupation de place publique et qui encore moins relève de tactiques paramilitaires. Pas du tout. Ici, on a affaire à une contestation qui est décentralisée et régionale, qui fait apparaître l'existence d'une société civile un peu pour la première fois. En réponse aux manifs, les flics ont multiplié tabassages et arrestations et en comptent déjà au moins un mort. A noter aussi que la grève est également saisie comme outil, ce qui est rare en Biélorussie, ce qui signifie que du point de vue de la composition de ce mouvement, travailleurs et ouvriers d'entreprises étatiques qui composaient avant les principaux soutiens de Loukachenko s'organisent désormais contre lui. De plus, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, désormais exilée en Lituanie, est devenue le symbole de la contestation. Faisant campagne via les réseaux sociaux, elle appelle à la fin de la dictature, à de nouvelles élections et à la modernisation du pays et dénonce en même temps la gestion catastrophique de la crise du coronavirus. Mais, mis à part ce mot d'ordre, elle ne s'affirme dans aucun parti, elle ne propose aucune ligne idéologique, elle s'en tient à une position strictement anti-Loukachenko, qui est massivement relayée et encouragée par les médias européens. Mais alors ces médias, quelle est la valeur de leur encouragement? Rappelons que la Biélorussie est un des seuls pays à avoir résisté aux attaques ultralibérales des années 90 après la chute de l'URSS. C'est un régime donc post-soviétique qui a gardé les principales structures de l'URSS. La production y est nationalisée à 80%, le taux de chômage quasi nul, le PIB par habitant très élevé, et un système de protection sociale est assez développé, l'enseignement et la santé y sont gratuits, les transports et les logements y sont subventionnés, la retraite est par exemple garantie à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Bref, tout ça, loin de nous conduire à minimiser l'autoritarisme en place, ni à sous-estimer la dégradation de la situation socio-économique depuis 10 ans, ces données doivent malgré tout nous amener à interroger les fondements des attaques et des critiques qui sont formulées par les pays occidentaux. Car il se pourrait bien que nos dirigeants craignent la Biélorussie moins comme dictature que comme modèle social post-communiste fondé sur les restes de la collectivisation. S'attaquer à l'autoritarisme du pouvoir biélorusse est certes légitime et même nécessaire du point de vue révolutionnaire, mais nous ne nous y trompons pas. Les régimes capitalistes qui soutiennent l'opposition à Loukachenko ne soutiennent pas la liberté du peuple qu'ils musèlent d'ailleurs dans leur propre pays. Sous les indignations et les appels à la démocratisation du pays, les régimes capitalistes encouragent d'abord un virage néolibéral de l'État biélorusse, la privatisation de ses moyens de production et la création d'un nouveau marché dérégulé qui bénéficierait à l'Union européenne. Bref, la diabolisation de Loukachenko par nos dirigeants masque les intérêts impérialistes dont notre vaillant Bernard-Henri Lévy s'est empressé de faire le porte-parole en rendant visite à l'opposante Tikhanovskaya.
Toujours dans les bons coups, ce BHL.
Toujours là. Et donc, à bas la dictature et son armée, oui, bien sûr, mais dans l'intérêt des classes populaires et pas dans celui de la bourgeoisie occidentale, ni dans celui de l'oligarchie russe.
Et toujours à l'international, on va du côté des États-Unis et de ces méga-feux.
400 000 hectares de forêt, des quartiers entiers réduits en centre, des fumées épaisses qui empêchent la lumière du soleil d'éclairer San Francisco et des lumières rouges en pleine journée. La semaine dernière, l'Ouest des États-Unis a offert des images dignes d'un film catastrophe. Dans les États de la Californie, de l'Oregon et de Washington, des centaines de milliers de personnes évacuées ont dû fuir le plus grand incendie de l'histoire de la région. Ces méga-feux, ils ont des conséquences irréversibles et leur régularité ne cesse d'augmenter. Pourquoi? La réponse est simple. Le capitalisme fossile et occidental, soit le plus important pourvoyeur de gaz à effet de serre depuis plusieurs siècles. Or, les très fortes températures assèchent les combustibles. Mercredi dernier, il faisait par exemple 49 degrés à Los Angeles, soit la température la plus élevée jamais enregistrée dans la ville. Pas de fumée sans feu. Et pas de méga-feu sans capitalisme, donc. Vous pourriez me dire, est-ce vraiment si grave si ces feux brûlent la Silicon Valley et avec elle les sièges sociaux d'Apple, Facebook, Google et consorts? Certes, mais il n'y a pas que des riches ingénieurs ou chercheurs en Californie. Il y a aussi les pompiers qui mettent leur vie en danger et tout un tas de travailleurs précaires qui habitent en bordure de cette richesse. Car ces incendies sont mortels aussi et surtout à cause de la fumée qu'elles dégagent et qui peuvent provoquer de graves problèmes respiratoires, ou la fuite de dangereuses particules chimiques dans l'eau, comme ces concentrations de benzène qui ont été retrouvées dans les canalisations de la ville mal nommée Paradise. Ces méga-feux sont devenus monnaie courante dans bien des régions du monde, au Panama, en Argentine et en Thaïlande, rien que pour cet été. Le mois dernier, en Argentine, ce sont 100 000 hectares qui sont partis en fumée, notamment des forêts où vivent les communautés indigènes. Celles-ci ont dénoncé un écocide, et plusieurs militants et militantes ont été emprisonnés pour avoir dénoncé le rôle du secteur immobilier, mais aussi les entreprises agroalimentaires, notamment de soja transgénique, qui déforestent des forêts illégalement en y mettant justement le feu, qu'elles ne maîtrisent pas. Ainsi, le capitalisme, de par sa logique extractiviste et productiviste, son exploitation de la nature et des travailleurs, rend notre monde proprement irrespirable. D'autant que ces feux ne touchent pas tout le monde de la même manière, en fonction de sa classe sociale. Il y a ceux et celles qui peuvent se réfugier dans leur résidence secondaire à l'abri des fumées, et ceux et celles qui se retrouvent à dormir dans les rues ou entassés dans les gymnases. Alors ce qui doit brûler, ce n'est pas les forêts, c'est le capitalisme.
Yeah. Et maintenant, avant de passer au national, écoutons la rappeuse Billy Breloque et son morceau Vertigo.
Le ciel, acheter des étoiles, gaspiller le sol et spéculer sur son système vagal. Que depuis la DSL, qu'on s'enfile en intravénal. On est tous un peu immortels sur le réseau mondial. Je m'en kébarde dans cette foule, camouflage ordinaire. Je nique vos caméras boules et ses clébards GPSR. Devant les garde-fous, vu du bas des buildings. Les gargoulages des nerfs fous, ils font clinquer leur chin-chin. Il faudrait quoi que ça me déclenche ces mêmes désirs disciplinés de grimper, bon gré la hanche d'un édifice mal fixé. Mais c'est trop loin le sommet, mes bœufs fatiguent déjà. Même quand je leur promets qu'après c'est le nirvana. Elles m'ont dit ce projet, Billy c'est pas pour toi. T'as pas le bon ticket, t'es pas dans ce wagon là. C'est l'attraction terrestre qui te cloue au plancher. Ta ration par trimestre, de raison entranchée. Faut pas que je me défenestre, une fois que je serai débranché. Sur les restes de ces rengaines bien pliées dans mon grenier. J'ai devant toi, tiens-toi debout, je te lâche ta main dans l'escalier. Laisse être en barre, lâche ton croix rouge, je veux te voir crôler jusqu'à la bouée. Fais-moi tanguer ce bazar, où c'est que t'as vu bordel. Que dans les salles d'histoire, on descend en rappel. Le vide n'est jamais loin, si l'attaque option étanche, il gangrène par le coin. Sois le pilote de ta page blanche, j'écrirai dans la marge. Même quand tu auras plus de papier, t'inquiète qu'il m'en reste des faces de barge à te faire siroter. Si jamais je me perds le top, ce serait que j'ai pas pied. Là t'sais pas si c'est trop haut, ça peut me donner envie de sauter. Haute voltige, grande déluge, déluré en délire. Je veux du vertige, je veux que ça dure, que ça frise et fustige le pire. Déjouer le tour des choses en rafale de piston, ce sera au moins grandiose. Ça vaut pas le coup sinon, faut que ça me torgnole en bon branquignol. Que ça gondole quand ça décolle et que ça me colle comme la fat école. Et puis je m'emballe et je perds les pédales. Je cale où mes freins font la malle et ça dévale à balle avant de faire mal. Ma plume se contracte, je me tétanise en plein envol. Sonner l'entraxe, c'est quand le sol. Y'avait un pacte avant que je déconne. Panne de courant dans l'ascenseur, le commandant est déserteur. Rappelé par le couche de sapeur, dictateur de l'interrupteur. Il est tombé dans le trou de son self-made merdier. Mais le petit coup de grisou, c'est le risque du métier. L'ennui prise sur le vif, aboyé d'os éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut me donner envie de sauter. L'ennui prise sur le vif, aboyé d'os éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. Ça peut me donner envie de sauter. L'ennui prise sur le vif, aboyé d'os éclats comme ce rap qui sera convulsif ou qui ne sera pas. À marée basse, le marasme se démarque en marécage. Je démarre au quart de tout passe-passe, à marée au barreau de ma cage. Adage de ramage et plumage, un madoué pas dans leur sillage. Ni mon panache, ni son tapage, quand ils paradent dans les parages. Paré au décollage, les hélices s'affûtent, on fait son bricolage. On compte les minutes, si je crois que j'ai capté le message. L'important c'est que ça bute, je l'ai déjà foiré l'atterrissage. Laisse-moi kiffer la chute, 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 chute.
Il est 19h22, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous venez d'écouter Billy Breloque, Vertigo. Et on parle tout de suite de la rentrée des Gilets jaunes.
Alors oui, l'appel circulait depuis l'été. Le 12 septembre devait être une date marquante, la rentrée des gilets jaunes sur les ronds-points et surtout dans les quartiers huppés de la capitale. Le pari d'une remobilisation massive en pleine crise sanitaire était risqué mais pas absurde au vu de la crise économique qui commence, des licenciements qui se multiplient et des inégalités qui augmentent. Même Jérôme Rodrigue qui a massivement relayé l'appel. Il avait lui pour objectif de mobiliser en s'adressant aux petits patrons qui auraient fait les frais du confinement. Faut croire que ceux-ci n'ont pas entendu parce qu'ils sont pas venus massivement. Bref, samedi dernier à Paris, 3 lieux de rendez-vous avaient été fixés, mais surtout 2 ont rassemblé du monde. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dès le matin, place Wagram dans le 17e et place de la Bourse dans le 2e, tandis que plusieurs autres manifs sauvages ont eu lieu. En même temps, sans gilets jaunes, on finalement à la fin de la journée réussi à atteindre les champs. C'est un exploit. Il est impossible de chiffrer exactement le nombre de participants et de participantes, mais on est loin de retrouver le nombre, évidemment, des moments forts des gilets jaunes. Cela n'a pas empêché une répression féroce et démesurée. Nas, charges, gaz et matraques se sont succédés à une vitesse incroyable. Pour la seule journée de samedi, donc, on compte plus de 200 interpellations et 3 journalistes placés en garde à vue. La faible ampleur de la mobilisation est certes réelle, mais quand même relative. Et elle s'explique avant tout par le niveau de violence et de répression dans le pays depuis 2 ans. Rappelons quand même que 3000 condamnations ont eu lieu, dont un tiers de prison ferme depuis le début du mouvement. Même si les gilets jaunes ne rassemblent plus le spectre de tous les précarisés, le rendez-vous de samedi a eu le mérite d'entraver un soi-disant retour à la normalité. Puisqu'il s'ajoute aux luttes qui avaient commencé au début de l'été, les luttes antiracistes et les luttes féministes, qui ont donc scandé les mois de juillet et d'août. Et on espère aussi que ce samedi, même s'il n'a pas été extraordinaire, prépare la mobilisation syndicale du 17 septembre.
Et on passe tout de suite à la mobilisation en soutien à Anthony Smith.
Oui, on va reparler des mobilisations, mais cette fois dans le monde du travail. Vous vous souvenez sûrement de Anthony Smith, cet inspecteur du travail qui a syndiqué à la CGT, qui avait été suspendu de ses fonctions le 15 avril pour avoir, je cite, « méconnu de manière délibérée, grave et répétée les instructions données aux agents durant l'épidémie de Covid-19 ». En fait, ce qu'il avait fait, c'était sommer à une association d'aide à la personne qui emploie donc des aides à domicile, de fournir à ses salariés des masques de type FFP2 et FFP3 pour tout simplement les protéger contre l'épidémie. Et donc cette intervention de cet inspecteur du travail, qui finalement se servait des moyens que lui permettait son poste pour essayer de protéger ses salariés, a été jugée comme une intervention sans le moindre discernement dans cette association. Et a donné lieu à un rapport disciplinaire et à une sanction, puisqu'il a été muté à 200 km de son domicile. Donc il y a eu plusieurs mobilisations au cours de l'été, notamment le 21 juillet, un rassemblement à Paris de la CGT, la CNT, FO, FSU et Sud. Et à la rentrée, la mobilisation a repris avec cette semaine, par exemple, un rassemblement devant la directe de l'Isère. Et on peut dire que la mobilisation paye, même si c'est une petite victoire, puisque quand même le chef de la Direction Générale du Travail a démissionné suite à à une réunion avec la ministre Elisabeth Borne, qui a critiqué sa gestion et le rapport disciplinaire qu'il a fait sur Anthony Smith. Et évidemment, ces critiques n'auraient pas eu lieu sans la mobilisation des syndicats et des inspecteurs du travail. Et d'ailleurs, il y a eu quand même une vague de répression assez importante dans plusieurs entreprises pendant le Covid-19. Et il y a cette semaine un meeting interprofessionnel qui est organisé à Paris contre la vague de répression au travail, avec plusieurs comités et campagnes de soutien, donc de Anthony Smith, mais aussi Alexandre Elgamal à la RATP, Éric Bézou à la SNCF, Yann Gaudin à Pôle emploi, Vincent Fournier et Gaël Quirante à La Poste, Roja et Victor à l'Université et quelques autres que j'oublie. Mais la mobilisation contre la répression au travail continue.
Toujours dans la catégorie répression, parlons maintenant d'un slogan qui vaut cher.
Oui, c'est une petite histoire comme il en arrive souvent, mais qui illustre très bien l'utilité du chef d'inculpation, outrage et rébellion. Alors ça commence avec la manifestation du 9 mai 2019 à Nice contre la réforme de la fonction publique. Lors de cette manifestation, deux étudiants syndiqués, une doctorante et un professeur d'histoire-géographie sont arrêtés pour outrage et rébellion pour les trois premiers et outrage, rébellion et violence pour le prof. Ce motif d'inculpation, ils le doivent au fait d'avoir scandé le slogan suivant. Il tue, il blesse, abat les CRS, il tire au LBD, abat les Condés. Le syndicat de police Alliance avait très vite comparé ce slogan à des menaces de mort. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas tout à fait le cas. Et c'est vrai qu'il y a des slogans souhaitant la mort des policiers, il en existe, on en entend à manif, mais c'est pas celui-là. Et celui-là même, il est plutôt gentil puisqu'il s'agit simplement de constater un fait. Les policiers tuent, blessent et tirent au LBD. Et ça, à moins d'être Castaner, qui n'a, vous vous en souvenez sûrement, jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou un journaliste. Donc à moins d'être Castaner, c'est difficile à nier. Pour revenir à notre manifestation de 2019, cette manifestation s'était déroulée avec une pression constante de nombreux policiers en civil qui encadraient spécialement le cortège syndical. Les arrestations se sont déroulées à la fin de la manif, quand une partie s'était déjà dissipée. Et celle du professeur d'histoire-géographie a été violente, on l'a en effet vue sur une vidéo diffusée sur Internet, plaquée au sol par trois policiers, position dans laquelle maintenant on sait tous qu'on peut se sentir assez vite en danger. Et ça, même Castaner n'ose plus dire qu'il est tout à fait inoffensif d'écraser quelqu'un au sol. Ce professeur aurait apparemment mordu un policier pour se défendre, ce qui lui a fait gagner donc l'accusation de violence, en plus de l'outrage et rébellion. Bon, je vous raconte tout ça parce que les quatre personnes sont passées au tribunal lundi dernier et qu'ils ont écopé de 2 mois de prison avec sursis pour les trois premiers, et le professeur a pris pour sa part 6 mois avec sursis aussi. Mais surtout, ils ont été condamnés à des amendes qui totalisent 7000 euros et qui vont aller directement dans la poche des policiers plaignants. 7000 euros, c'est donc pour des policiers qui n'ont pas supporté d'entendre des slogans en manifestation. Et bon, moi, je conseillerais qu'ils soient réorientés. Et surtout, c'est 7000 euros très facilement gagnés. Et c'est bien le problème du motif outrage et rébellion, c'est que ça encourage les policiers à en user et en abuser. D'autant plus que ce sont des affaires faciles à classer pour eux et qui rentrent ensuite dans leur stat et participent à leur avancement. Pour le faire valoir et le faire reconnaître, ils n'ont pas besoin de preuves. Leur seule parole suffit et elle n'est jamais remise en question. Pour cette histoire, lors du procès, les policiers étaient incapables de dire quel slogan ils avaient entendu. C'est pour dire à quel point ils n'ont pas beaucoup besoin de se justifier. Bref, c'est un processus qui participe au sentiment de toute puissance des forces de l'ordre d'un côté, et de l'autre, il permet une répression facile du militantisme. Et en effet, parmi les condamnés, il y avait 2 étudiants membres du syndicat Solidaire, et le prof d'histoire géo est membre de la FSU. Et c'est vrai que la menace de l'outrage et rébellion dissuade d'exprimer tout désaccord avec les forces de l'ordre, qui pourtant sont bien loin de toujours marcher dans les clous. C'est une situation qu'on connaît bien, mais sachez que le ministère de l'Intérieur est aussi au courant. Il l'a reconnu dans un rapport de 2013, si jamais vous voulez le retrouver, il s'intitule « Évolution et maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du ministre de l'Intérieur ». On y apprend donc que l'outrage et rébellion est fréquemment utilisé comme complément de revenus par les forces de l'ordre. Par contre, évidemment, rien n'a été fait pour endiguer ça. Et évidemment, au vu des avantages annexes pour le gouvernement, à savoir donc l'intimidation des militants et de toute forme d'insoumission. Et pour finir, en ne vous rassurant pas, le recours à l'outrage et rébellion ne cesse d'augmenter de façon exponentielle depuis 1996, ce qui prouve bien que les flics sont conscients de cette manne économique.
Et après l'ennemi intérieur de Manuel Valls, le sauvageon de Cazeneuve et Chevènement, c'est l'ensauvagement de Darmanin.
Et oui, cet été, Gérald Darmanin a pris la relève de Christophe Castaner, qui on pensait qu'il allait nous manquer, mais Darmanin est là. Et il a relevé les manches, enfilé le bleu de travail pour justement remettre du bleu dans la rue, je cite, car cela rassure les honnêtes gens et réaffirme l'autorité de l'État dans un pays qui serait au bord de la guerre civile. Fin juillet, dans une interview au Figaro, le nouveau ministre de l'Intérieur affirmait vouloir mettre fin à l'ensauvagement, donc de certaines franges de la société. En l'occurrence, le sauvage, pour Darmanin, c'est le jeune homme arabe ou noir des quartiers qu'il faut convaincre et civiliser, et dont il faut protéger les femmes de sa violence et de son obscurantisme. Dans un entretien qu'il a donné la semaine dernière avec Marlène Schiappa, il affirmait ainsi vouloir mettre fin à la fin des certificats de virginité délivrés par des médecins en vue de mariages religieux, ainsi que surveiller les associations, et notamment leurs subventions, qui pourraient être conditionnées à certains principes aussi vagues que l'égalité homme-femme. Et on se demande d'ailleurs si ces conditions seront aussi appliquées à des associations comme l'Automobile Club de France ou le Jeu Club, qui se déclarent explicitement non mixtes.
Ou le gouvernement.
Pendant ce temps, justement, le gouvernement et Emmanuel Macron laissent faire, voire encouragent, pour finir de conquérir l'électorat de droite et d'extrême droite. Darmanin a aussi pu compter sur le soutien du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, pour qui chacun choisit les mots qu'il veut. Sauf que les mots utilisés le sont de manière délibérée et ont un sens. Parler d'ensauvagement, c'est utiliser une rhétorique néocoloniale et raciste qui lui permet de relayer au second plan la plainte pour viol qu'il vise, ainsi que le mouvement contre les violences policières du printemps dernier. Cela lui permet enfin de se présenter comme un homme du peuple, lui qui veut construire une droite populaire, puisqu'il répète sans cesse que l'insécurité concerne avant tout les pauvres, les touche avant tout. Une rhétorique qui est donc issue de l'extrême droite, mais qui a en réalité infiltré les rangs et les discours de la droite comme de la gauche depuis bien longtemps, depuis la fin des années 90, puisqu'on se souvient donc de cette citation de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur du gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin, qui entendait, je cite, « pacifier les quartiers chauds où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins ». Face à cette posture, deux positions, celle martiale du combat contre la sauvagerie, la rhétorique de la racaille et des territoires perdus de la République, chère au mentor politique de Darmanin, Nicolas Sarkozy, et celle plus de gauche, de la pacification de la société par l'éducation, le travail, les sports et les loisirs. Ainsi, le député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernal-Iwa, considère le discours de Darmanin comme un discours qui tend la situation dans les quartiers. Mais au fond, donc, à droite comme à gauche, une même perspective, celle de la pacification. Ensauvagement, séparatisme, guerre civile, tout ça n'est pas qu'une affaire de mots, mais bien une véritable bataille politique et idéologique à mener. Dans celle-ci, il est important de remettre certaines choses à leur place, parce que la violence et peut-être l'ensauvagement est avant tout exercé par l'État raciste et sécuritaire. Ainsi, entre 2009 et 2018, les tirs de LBD ont été multipliés par 450, ceux de grenades de désencerclement par 50. On voit donc que la violence n'est pas là où on voudrait nous le faire croire. La violence aussi, c'est celle de l'extrême droite qui tue régulièrement et revient en force, comme on a pu le voir à Lyon ce week-end, ou à Nice il y a deux semaines, où un groupe de fachos s'est introduit sur le campus de la fac de l'aide pour passer à tabac un étudiant syndiqué qui tenait juste un stand pour la rentrée.
Et on continue avec toutes ces bonnes nouvelles répressives en faisant un petit tour du côté de Calais où les distributions alimentaires sont désormais interdites.
Et oui, vous allez voir, on va continuer à parler de Darmanin, mais surtout du Covid, vu que le Covid c'est super pratique, ça permet d'enfouir d'autres informations, mais ça permet aussi de justifier des mesures difficiles qu'on n'arrivait pas à faire passer avant. Par exemple, au hasard, l'achat de drones de surveillance pendant le confinement. Pas pour s'occuper en vue des prochaines manifs, hein, mais c'était pour assurer que les deux semaines de confinement restantes étaient respectées. Et puis bon, comme il n'y en avait pas à la location, on les a achetés et puis maintenant on va les garder. Ou alors, ça sert à interdire les distributions alimentaires à Calais. Ou plus précisément, les distributions alimentaires par des associations non mandatées par l'État. C'est la préfecture du Nord qui a pris cette décision jeudi dernier après un entretien avec notre récent ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Mais oui, bah oui, apparemment, les distributions alimentaires, ça crée des attroupements dangereux. Pas sûr que ce soit vraiment le bien-être des migrants qui bénéficiaient jusque-là des distributions qu'ils aient en tête, puisque parmi les arguments avancés, il y a aussi les nuisances sonores et les déchets laissés sur place. Donc apparemment, il vaut mieux une ville propre et silencieuse au prix de gens à la rue qui meurent de faim. Il est donc interdit de venir en aide spontanément à des gens à Calais, et il n'y a aucune prise de conscience sur le fait que des gens et des associations sans rapport avec l'État aient ressenti le besoin de compléter les distributions déjà faites par plusieurs centaines de repas par jour. D'après ces derniers, l'association La Vie Active, donc celle qui est mandatée par l'État, distribue environ 700 repas par jour, alors qu'ils estiment à 1400 le nombre de migrants à la rue. Incroyable que pour la préfecture, la solution à des gens qui dorment dehors et sont dépendants de distribution alimentaire n'est pas de leur venir en aide, mais bien de les précariser encore plus. Et surtout, difficile de croire que cette mesure, qui va avoir pour effet d'accumuler encore plus de monde au même endroit, sur les lieux de distribution officiels, et qui va donc être inefficace en termes sanitaires, et qui surtout va avoir pour effet que certaines personnes n'aient plus accès à de la nourriture, difficile de croire donc que cette mesure ne soit motivée par autre chose que par une volonté malsaine de punir tous ceux qui ont osé venir en France en espérant vivre mieux. Rappelez-vous, en 2019, c'est la mairie de Calais qui avait tenté de prendre un arrêté similaire, mais il avait été annulé par la justice peu de temps après. Il a donc fallu attendre le Covid pour que ça passe, et ça ne sera sûrement pas la seule mesure à en bénéficier.
Une bien belle rentrée, ma foi.
Oui.
Parlons maintenant de Mairie Verte qui aime le bleu.
Et oui, dans ce bel élan sécuritaire qui traverse tous les courants politiques, les nouvelles équipes municipales ne sont pas en reste. Les alliances de dernière minute de cette nouvelle gauche peuplée de jeunes cadres citadins ont vite révélé leur vrai visage, celui de la bourgeoisie. Alors on va faire un petit tour d'horizon non exhaustif, des très nombreuses mesures sécuritaires prises par ces élus d'un prétendu nouveau monde. Alors à Bordeaux, Pierre Humeric, maire Europe Écologie Les Verts et avocat, a par exemple décidé la création d'une brigade VTT et cynophile, l'augmentation des effectifs de la police municipale comme bon nombre de ses homologues. Il a demandé des renforts de police municipale et la création d'une compagnie de CRS. Selon lui, l'augmentation de la délinquance serait du fait des mineurs étrangers non accompagnés que son département, pas plus que la métropole de Lyon, ne semble décidé à accompagner comme la loi les y oblige pourtant. À Montpellier, Michael Delfos, de la Fosse, pardon, maire socialiste allié au Vert, hein, oui, encore eux, a pris dès cet été pour cible le marché alimentaire sauvage de la Paillade. La Paillade, c'est un quartier populaire de Montpellier. Il envisage l'installation d'un PC mobile de sécurité sur la place de la Com, qui est la place centrale de Montpellier. À Besançon, Anne Vigneault, qui est maire écologiste, elle a demandé des renforts de police à Darmanin dès le lendemain de son installation, tout en prétendant refuser de céder aux sirènes sécuritaires. À Bobigny, ce sont les communistes qui ont récupéré la mairie, mais ils décident de maintenir l'armement de la police municipale qui a été mise en place par l'UDI au mandat précédent et poursuit bien sûr les installations de vidéosurveillance. À Saint-Denis, les socialistes ont enfin ravi la mairie aux communistes et en profitent donc pour mettre un terme au, je cite le maire, laissez-faire de l'ancienne équipe. Alors au menu, armement, brigade canine, vidéosurveillance, mais aussi cet été, un arrêté anti-chicha et des amendes pour les vendeurs à la sauvette. Alors c'est beau comme du ménard, hein, et on se demande qui on désigne bien derrière ces mesures. À Tours, Emmanuel Denis, encore un vert, hein, il a abandonné son opposition à la vidéosurveillance et il s'est engagé à équiper le centre de supervision urbain d'un nouveau serveur, tout en assurant que la police municipale conservera bien entendu ses armes. Et réjouissons-nous, hein, nous ne sommes pas en reste à Lyon. On se souvient de la sortie remarquée de Grégory Doucet à la Guillotière le 11 mars dernier. Il avait entrepris une visite sécuritaire de la Guillotière pour dénoncer le harcèlement de rue, les rodéos urbains et le trafic de drogue qui mine le quartier. Alors, il avait été pas vraiment très bien reçu, hein, pour la petite info. D'ailleurs, Fanny Dubos, la nouvelle maire du 7e, elle aussi écologiste et qui l'accompagnait ce jour-là, n'a rien trouvé de mieux à faire que de rencontrer le collectif réactionnaire La Guillotière en colère quelques semaines après s'être installé dans le fauteuil de maire. Alors il y en a qui perdent pas de temps. Hein. Aujourd'hui, il nous promet des flics et de la vidéo-verbalisation à tous les étages. Bienvenue dans le rêve vert de Grégory Doucet. Alors en fait, il n'y a rien d'étonnant hein, tout ça parce que depuis septembre 2019, déjà en septembre 2019, une adjointe Europe Écologie Les Verts d'Ivry-sur-Seine avait déposé à Matignon un, je cite, « livre blanc pour la sécurité des territoires », un pamphlet surtout pour la Smart City version sécuritaire qui fonde nos espaces de vie et de lutte des monuments aseptisés pour assurer calme et propreté pour les courses en magasins bio des bourgeois. Alors contre ces villes de mort qu'ils construisent, organisons-nous et luttons.
Et avant de passer au local, on écoute maintenant La Canaille avec son morceau Redéfinition. We must continue. That is nothing more tragic than to sleep. C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration. Une scie pour une évasion, c'est un tambour, un tam-tam, un boucan pour les diables, c'est un ram-dam, c'est un ral-dom, un ral-bol, une bouteille de tissu et de l'alcool, c'est un fontal, un calvaire, la gueule du sauvageon qui veut pas se taire, c'est une espèce tenace, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit, c'est cette plume qui rentre au pays. La boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille et bien j'en suis. C'est un lion, c'est une panthère. Tête baissée, le poing en l'air. C'est un combat, un constat, une réflexion. Un siècle et demi après la redéfinition. C'est du piratage, sabotage. La graine de mutin, c'est de l'abordage. C'est la science du renversement. L'ennemi de l'ordre des gouvernements, c'est ici, c'est maintenant, c'est ce son dans les tympans, la conséquence, le réceptacle, l'alternative à la débâcle, c'est l'évolution, c'est l'après, c'est l'héritage, c'est la clé, ouais c'est ce phare qui brille dans la nuit, c'est la canaille et bien j'en fuis, c'est la larve d'un volcan qui se réveille, c'est la vague qui te balaye, c'est le vent. Un vent d'humanité, on veut la justice, pas la charité. Au nom du merveilleux de ses yeux écarquillés, au nom de la beauté de nos rêves éparpillés, c'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre, à réduire un système en cendres. C'est une armée, c'est une légion, un
l'international et la pression. C'est plus haut que les frontières et les barbelés. C'est des mots pour marteler. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est vieux comme le feu. C'est la lutte comme un rempart à l'ennui. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. 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 C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. Et bien j'en suis.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h43 et vous écoutez toujours le Canu Info. On passe tout de suite à l'actualité locale avec la tentative de mobilisation des FAF ce week-end.
Mais oui, quoi de mieux que la thématique de l'insécurité pour faire un petit coup de pub. Entre l'arrivée du Tour de France et la manif des Gilets jaunes, les fachos se sont dit « Tiens, on pourrait profiter de la visibilité médiatique accordée à cette journée pour faire un petit coup de com'. Raté, on les a vus et on les a reconnus. » En effet, c'est en reprenant l'injonction sécuritaire lors d'un rassemblement devant le palais de justice du Vieux-Lyon que les fachos lyonnais, et particulièrement Lyon Populaire, espèrent gagner du terrain et un soutien bourgeois. Derrière ce mot d'ordre de l'insécurité ressassé à toutes les sauces de la gauche à l'extrême droite, se tiennent, à peine larvés, les discours racistes les plus ignobles qui visent à rendre responsable une partie de la population de la mise en danger de l'autre. Sous couvert de protection des habitants et de relations de voisinage paisibles, les fachos cherchent à stigmatiser et à essentialiser les personnes non blanches en leur attribuant l'origine de n'importe quel dérangement. Ce grossier tour de force n'a pas honte d'instrumentaliser la dramatique mort récente d'Axel Dourier par exemple, mais instrumentalise aussi la problématique du harcèlement de rue, voire même invente de fausses agressions pour parvenir à leur fin raciste. Surfant sur la vague des collectifs de riverains en colère, les fachos tentent ainsi d'actualiser le potentiel réactionnaire de ces groupes pour construire leur hégémonie idéologique néfaste. Mais nous ne sommes pas dupes. Derrière votre prétention soi-disant citoyenne et apolitique, nous ne cesserons de vous démasquer. D'ailleurs, vous avez un peu raté votre coup, parce qu'il faudra prendre un petit cours de camouflage, parce que réouvrir la traboule le même soir que le jour du rassemblement, c'est pas malin.
Pardon, on passe tout de suite à une grève des salariés chargés du nettoyage dans le TGV.
Et oui, la semaine dernière, les salariés chargés du nettoyage et de la désinfection de nos TGV et de nos trains régionaux se sont mis en grève pour obtenir notamment une augmentation de leur salaire et une semaine réduite à 5 jours de travail. Et c'est une grève qui a été massivement suivie par 80% des salariés de la société sous-traitante de la SNCF, la Pyrénéenne. Ces petites mains des trains de la SNCF, qui sont majoritairement des femmes, n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement et leur travail a même été alourdi par les tâches de désinfection des trains en temps de pandémie de Covid. Le marché du nettoyage des trains est un marché qui est ultra concurrentiel et que la SNCF sous-traite à des entreprises qui rejouent le match de l'appel d'offres tous les 3 ans en espérant obtenir le contrat à coût de flexibilité sociale et d'optimisation de la masse salariale. D'ailleurs, quand l'entreprise prestataire change, les avantages et les primes des salariés sont remis en cause systématiquement. La Pyrénéenne, c'est une entreprise qui détient le marché de Lyon, de la gare de Lyon, mais aussi d'une dizaine d'autres gares françaises comme celle de Toulouse, et qui se présente sur son site comme une société familiale à taille humaine qui cherche à offrir des solutions innovantes et économiques. Familiale, c'est vrai, elle est désormais dirigée par le fils Jean, du fondateur de l'entreprise Aimé Marty. À taille humaine, c'est sans doute une manière de dire sous-effectif chronique dans le langage managérial. Par contre, rien de très innovant dans la politique d'exploitation des travailleuses et des travailleurs.
Et on passe tout de suite à un dossier autour de, des étudiants qui sont toujours bien en galère. Hein. Depuis le début du processus de Bologne, c'est privatisation à tout va et surtout l'accès à l'université qui est rendu de plus en plus difficile pour l'ensemble des étudiants européens. Donc on va parler un peu de la situation à Lyon 2, puisqu'il y a une mobilisation qui est prévue ce mercredi à 14h sur le campus des quais. Alors j'accueille donc Anaïs, Lexi et Louise pour me parler de tout ça. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui. Je ne sais pas qui veut y aller. Moi, je peux y aller, c'est bon ? Alors moi, je m'appelle Louise, j'ai 20 ans. Et donc du coup, après mon bac que j'ai eu à 18 ans, j'ai passé une première année à travailler. Et ensuite, j'ai fait une formation professionnelle dans le maquillage pro artistique, tout ça. Et aujourd'hui, je me retrouve à vouloir me lancer dans une licence droit au sein de l'Université Lumière à Lyon 2. Et je me retrouve ici avec mes collègues parce qu'on a des très, très gros soucis pour intégrer l'université. Donc Anaïs vous en parlera plus profondément, je pense. Et voilà.
Et Lexie, toi aussi, tu te retrouves en fac. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ton parcours ?
Oui, tout à fait. Eh bien, moi, je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. J'ai fait une licence de psychologie, donc je suis titulaire depuis cette année. J'ai actuellement 21 ans. J'ai postulé dans deux masters à l'Université Lyon 2 parce qu'ils proposaient les enseignements que je désirais le plus par rapport aux autres facs, notamment que se déplacer à l'autre bout de la France est plutôt problématique pour un étudiant au niveau de tout ce qui est finance et surtout au niveau du choix d'orientation. Donc voilà, je me retrouve actuellement sans master et c'est extrêmement compliqué. J'ai décidé d'abord de faire une saisine, qui est le droit à la poursuite d'études, qui est autorisée pour tout étudiant se retrouvant sans master. Seulement, bien voilà, je n'ai pas été acceptée par cette saisine parce que je n'avais fait que deux candidatures dans deux masters au sein de l'université et dans la même mention. Du coup, j'ai appelé le rectorat, ils m'ont proposé de refaire une candidature dans un master à l'extérieur. Malheureusement, j'ai été acceptée parce qu'eux, ils espéraient que je puisse avoir un refus pour être acceptée à la saisine. Du coup, de ce fait, je me retrouve exclue de ce droit à la poursuite d'études. Et mon dernier espoir, c'est ce recours qu'on a déposé avec l'UNEF pour pouvoir avoir un master qui nous est de droit en tant que titulaire de licence. Et je parle aussi au nom de tous ceux qui sont actuellement sans master.
Anaïs, toi justement, tu es syndicaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation à Lyon 2 et ce que vous, en tant que syndicat, je rappelle que tu fais partie de l'UNEF-TACLE, vous avez constaté depuis cette rentrée, mais aussi depuis la mise en place de Parcoursup?
En fait, donc, depuis la mise en place de Parcoursup, on a en fait un droit en fait à la poursuite d'études qui n'est plus respecté. Avant, avec les anciennes plateformes qu'on avait pour l'admission en licence, c'était pas parfait, hein, mais normalement on avait le droit à une poursuite d'études. Actuellement, elle est plus du tout garantie par Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme qui est sélective, qui sélectionne selon des critères qui sont absolument, toujours les mêmes. C'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes qui sont laissés de côté, c'est les étudiants qui viennent de lycées des quartiers populaires, c'est les étudiants étrangers, c'est les étudiants qui ont eu des problèmes de santé, qui n'ont pas pu suivre les cours. La sélection, en fait, on rappelle qu'en 2018, la première année de Parcoursup, il y avait 45 000 étudiants qui s'étaient retrouvés sans aucune proposition d'admission. Et ils étaient dit inactifs. Et en plus de ça, en fait, en tout, on avait 225 000 étudiants qui avaient abandonné la plateforme. Cette année, on est à peu près sur des chiffres similaires, voire en hausse, qu'on a beaucoup de mal à calculer, notamment à cause de l'épidémie qu'on a eue, des conditions de vie des étudiants qui ont été beaucoup aggravées. Et donc à Lyon 2, nous, on mène la campagne sans fac. On a recensé à peu près 60 à 80 dossiers en tout. Ils n'ont pas tous été déposés. On en a déposé une cinquantaine auprès de la présidence. Donc c'est un recours collectif qu'on fait, c'est une action collective qu'on fait. Pour qu'en fait la présidence elle prenne ses responsabilités et qu'elle inscrive les personnes qui sont en fait en droit d'avoir une poursuite d'études, comme l'a dit Lexie. Et voilà en gros nous ce qu'on fait à Lyon 2, et aujourd'hui il y a beaucoup 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 d'étudiants et d'étudiantes qui sont laissés sur le carreau.
Et du coup c'est une campagne qui est menée au niveau national, c'est quoi un peu la situation dans les autres facs?
Alors du coup c'est une campagne qui est menée dans 5 villes en France par l'UNEF-TACLE, donc à Nanterre, à Lille, au Mans, à Lyon et à Grenoble. Et donc à Nanterre par exemple, ils ont recensé plus de 500 dossiers de personnes qui ont été refusées. Ils en ont déposé une bonne partie également, et la situation elle est vraiment dramatique. Elle est vraiment dramatique en fait pour les étudiants, et notamment pour tous les étudiants qui sont en fait comme d'habitude laissés sur le carreau, comme je disais, ceux qui viennent des quartiers populaires, et énormément d'étudiants étrangers, d'étudiants sans papier. C'est assez dramatique, ouais.
Oui, c'est une bataille qui était déjà bien entamée ces dernières années à Lyon 2, notamment sur l'inscription des étudiants étrangers sans papier. Mais là, les portes, elles se ferment vraiment pour tout le monde. C'est la dynamique générale de l'université à l'échelle européenne. Du coup, vous, face à ça, vous prenez l'organisation collective, la lutte collective. Est-ce que vous pouvez me parler des prochains rendez-vous et de comment vous menez la bataille, notamment contre la présidence de Lyon 2 qui n'accepte pas à vos demandes, comme à son habitude?
Ouais, en gros. nous déjà, ce qu'on a fait, ça fait déjà 3 semaines de suite là qu'on organise des rassemblements. La première semaine, on a fait un dépôt de 21 dossiers qui ont été acceptés par la présidence. On a eu un rendez-vous avec le secrétariat et un vice-président qui ont dit qu'ils allaient étudier nos dossiers et nous rappeler dans une semaine. Donc une semaine après, on a exigé un rendez-vous. On a eu un rendez-vous avec la présidence qui ne s'est pas très bien passé. Étrangement. Présidence qui a refusé en fait d'étudier les dossiers et qui a renvoyé la balle au rectorat, soi-disant que c'était au rectorat de s'en occuper, alors que c'est elle qui peut signer le recours.
Oui, elle a un pouvoir.
Voilà.
Et donc, elle n'est pas allée jusqu'au bout du rendez-vous.
Et surtout,
elle l'a déjà fait.
Et surtout que cette présidente, elle a absolument pas respecté ce rendez-vous puisqu'elle est partie en plein milieu et en colère, et elle nous a laissé avec ses subalternes pour discuter de la suite de la campagne, tout simplement.
Ah là là, on change pas une équipe qui gagne. Donc du coup, là, les prochaines échéances, c'est quoi pour
Nous, donc, comme on disait, on mène la campagne sans fac à l'UNEF, mais en fait on croit vraiment que c'est aux personnes sans fac de s'en emparer. Du coup, on organise des assemblées générales de sans fac dans lesquelles on discute de la stratégie qu'on doit avoir contre la présidence. Et donc là, on a une prochaine AG qui sera mercredi et qui sera suivie donc à 14h d'un rassemblement sur le campus des Bergerons, donc c'est ce qu'est Claude Bernard, dans la cour centrale de Lyon 2. Donc on appelle toutes les personnes qui pensent que l'université doit être ouverte à toutes et à tous et qui sont contre la sélection à nous rejoindre. On invite également tous les étudiants et toutes les étudiantes à nous rejoindre pour défendre les sans-facs, pour défendre leur droit à l'inscription, parce que si aujourd'hui c'est les sans-facs qui sont attaqués, demain ça peut être n'importe qui en fait. La sélection, ça peut tomber sur n'importe qui. C'est pas parce qu'on a une place en L1 qu'on va avoir une place en master en fait. C'est pour ça qu'on doit se battre aujourd'hui, maintenant, contre la sélection et toutes et tous ensemble. Et voilà, donc j'appelle vraiment tout le monde, toutes les organisations qui souhaitent nous soutenir aussi à venir et pour nous aider et surtout pour les soutenir en fait, parce qu'ils et elles en ont vraiment besoin.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup Anaïs, Lexi et Louise pour vos témoignages. Donc on rappelle le rendez-vous de mercredi, 14h, cour centrale du campus Berge du Rhône, pour rappeler à la présidence ses responsabilités et notamment ses engagements. On rappelle que Nathalie Dantigny avait été élue notamment parce qu'elle s'insurgeait contre l'intervention policière face au collectif des étudiants étrangers sans papier de Lyon qui demandait leur inscription, et qu'elle a depuis été la présidente de Lyon 2 qui a fait le plus intervenir la police dans ses locaux. Du coup, on attend qu'elle soit à la hauteur de ses prétendus engagements. On vous invite toutes et tous à vous rendre mercredi, soutenir les étudiants dans leur bataille pour l'inscription.
Et on a juste le temps pour 2 dates de plus pour l'agenda. Demain matin, il y a apparemment une expulsion prévue au campement de SDF du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Et donc il y a un appel à se rassembler à 6h du matin. Au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin.
Alors ça, c'est plutôt les promesses de la ministre du Logement qui ne sont pas tenues, puisqu'apparemment, il ne devait pas y avoir d'expulsion après la fin de la trêve hivernale sans solution. Visiblement, ce n'est toujours pas le cas.
Mercredi, donc, n'oubliez pas le rassemblement au campus des quais de l'Université Lyon 2, mercredi 14h. Et puis, jeudi, c'est grève à l'appel de l'intersyndicale du Rhône et manifestation aussi pour donner le ton contre la mise en place par le patronat et le gouvernement de la précarité, de la peur, de la restriction des libertés et du chômage de masse, ainsi que pour demander quelques petites mesures comme la gratuité des masques pour tout le monde. Et c'est à jeudi 11h30 à la manufacture des tabacs.
Et comme il nous reste quelques minutes, on en profite pour rappeler que l'espace communal de la Guillotière a réouvert ses portes et fait sa rentrée. Il y a toujours des distributions alimentaires les mercredis et vendredis. Il y a toujours besoin de coups de main. Il y a des cours de français qui se mettent en place tout doucement, des permanences juridiques les jeudis de 16h à 18h et les mardis à 18h. Voilà, et des AG tous les dimanches où sont bienvenues toutes et toutes les âmes motivées. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de l'agenda pour la semaine. On vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.